Chapitre 13. Excursion au Havre. Monsieur et Madame de Valry, Miss Lagy et les six enfants se rendirent à pied au port. En passant devant l'église, ils allèrent mettre sous la protection de Dieu leur petit voyage et ceux qui restaient à Trouville, puis rejoignirent le vieil ami causant avec le capitaine. Un quart d'heure plus tard, le navire longeait la jetée. « Maman, voilà maman !» s'écria René. Tous ceux qui entouraient la petite de Berneuil levèrent la tête et virent en effet sa mère, penchée sur le parapet, tenant Lily dans ses bras, tandis qu'à côté, Marcel était dans ceux de Mariette. Ils se retrouvèrent encore au bout de la jetée, et tant qu'on put se distinguer, il y eut des signes d'adieu faits avec les mouchoirs. C'est toujours comme cela. Impossible de raconter le départ d'un bâtiment sans parler de mouchoirs agités. Hélène remuait peut-être encore le sien, que déjà son cœur était très barbouillé. Madame de Valry était fort pâle, Maurice aussi. Bientôt ce fut le tour de René. Les autres membres de la famille n'éprouvèrent rien, heureusement, car Miss Lagy avait assez de besogne à faire circuler les cuvettes. Beaucoup de passagers se trouvant éprouvés, plus ou moins, les effets du mal de mer, Léon ne put résister au désir de tirer de sa poche un crayon pour dessiner quelques scènes comiques. Monsieur de Livry, de son côté, s'amusait bien d'une vieille dame avec son chien. « Bibi, disait-elle, vous pâlissez, je crois. Seriez-vous malade ?»« Il ne faut pas être malade, Bibi. Cela ferait de la peine à petite maîtresse. Vous bâillez, Bibi, et votre langue me semble moins rose que de coutume. Pauvre Bibi, c'est triste, n'est-ce pas, de voyager sur mer? Mais voyez-vous, Bibi, je vais au Havre pour tâcher de me faire rendre une grosse somme d'argent. Vous bâillez encore, Bibi. L'argent ne vous intéresse pas. Mais pensez donc, si je suis riche, Bibi aura une niche de satin rose et ne mangera que de la brioche. Mon Bibi, que tu seras heureux !» La vieille dame, en disant cela, prit la tête du toutou entre ses mains et l'embrassa avec effusion. Le chien secoua ses oreilles, après avoir reçu les baisers de sa maîtresse, et fit mine de vouloir quitter ses genoux pour aller se promener sur le pont. « Bibi, restez ici, faites câlinette !» Bibi, décidément, ne voulait pas faire câlinette. Et il sauta sur le plancher du pont et commença à courir. La dame, le tenant en laisse, fut obligée de se lever pour le suivre. Seulement, elle n'avait pas le pied marin. Un mouvement du bateau la fit trébucher et tomber entre les bras de Monsieur de Valry, qui venait rejoindre son ami après avoir été prendre des nouvelles de sa femme et des enfants malades. Il crut qu'il n'y avait qu'à aider à se rasseoir celle qu'il soutenait et s'apprêtait à le faire lorsqu'il l'entendit pousser des cris déchirants en demandant la corde, la corde. Dans la secousse qui avait causé sa chute, la laisse de son chien lui avait échappé. Quittant donc brusquement Monsieur de Valry, elle essaya de se lancer à la recherche du fameux Bibi, trébuchant de droite à gauche de telle façon que les passagers placés sur son chemin se la renvoyaient l'un à l'autre. Tout éploré, elle réclamait tour à tour la corde et Bibi lui-même. On lui dit qu'un chien venait de descendre dans les cabines. Elle essaye de s'y précipiter et se cogne au front en voulant descendre l'escalier, qu'elle eût peut-être dégringolé sans Gaston, qui le montait avec la précieuse bête, se doutant que sa maîtresse devait le chercher. Le jeune garçon venait à peine de paraître qu'il entendit un peu au-dessus de lui les doléances de la vieille dame se changer en exclamations de joie délirante. « Délice de ma vie, mon Bibi, le voilà !» Dès qu'elle l'eut repris dans ses bras, elle lui dit « Fille, mon Bibi, que c'est laid d'abandonner petite maîtresse. Petite maîtresse ne peut vivre sans vous, Bibi !» Et mille balivernes de la sorte qui faisaient hausser les épaules aux gens de bon sens qui l'entendaient. Elle croit sans doute que son chien est un être supérieur à elle, puisqu'elle ne le tutoie pas, observa Monsieur de Valry. « Vraiment, mon cher, reprenait le vieil ami, je suis tenté de croire qu'elle ne vaut pas le roquet. Et cette personne qui promet à son chien une niche en satin rose et de la brioche à tous ses repas, s'occupe-t-elle des malheureux qui couchent sur la paille et de ceux qui n'ont pas de pain? J'en doute. Ce qu'on peut penser de plus charitable sur mon compte, c'est qu'elle a un bon grain de folie dans la cervelle. » On ne s'occupa bientôt plus de l'aventure, car le Havre était proche. Madame de Valry et les enfants, un peu ébranlés, remontèrent sur le pont. Quelques minutes après, ils se trouvaient sur la terre ferme avec une vive satisfaction. Maurice était assez vexé d'être le seul des garçons à avoir été indisposé, d'autant plus que lui, dont le goût pour la moquerie était assez prononcé, se vit en butte à quelques railleries de Monsieur de Livry. Vas-tu avec ces dames te reposer un peu à l'hôtel, mon pauvre marin d'eau douce ? Lui disait-il en dernier lieu. Non, monsieur, je vous remercie, répondit le jeune garçon d'un ton un peu piqué. J'ai la force de vous suivre et ne suis pas démoli pour si peu. Viens donc jeter un coup d'œil sur le port que nous visiterons en détail demain matin. Le soir, à dîner, personne ne se ressentit du malaise de la traversée. Chacun se trouvait à avoir un bon appétit. Hélène et Blanche, qui n'avaient jamais mangé au restaurant, s'étonnaient de tout, s'exprimant trop haut, ce qui faisait rire les voisins de table. La manière dont les garçons plaçaient leurs serviettes sous le bras, celle dont ils demandaient les mets choisis par les consommateurs, la liste des menus et bien d'autres choses, provoquaient des questions ou des éclats de rire. Un moment, Maurice donna un coup de pied à sa sœur Blanche pour l'avertir de se taire, et celle-ci de s'écrier d'une voix perçante. « Pourquoi me donnes-tu des coups de pied sous la table en roulant gros yeux ?»« Parce que je demande ce qui fait que papa commande toujours pour 5 lorsque nous sommes 9. »« Petite sotte !» reprit son frère. « C'est que les parts sont toujours trop grosses pour une personne. Il y en aura bien assez, sois tranquille. »« Eh bien, » répondit Blanche, « si jamais je suis la maîtresse d'un restaurant, je donnerai à chacun pas plus qu'il ne faut. De cette façon, je gagnerai bien plus d'argent. » On lui dit qu'alors les pratiques iraient chez d'autres, et le potage arrivant, la discussion se termina promptement. Les hôtels du Havre étaient combles, et nos voyageurs crurent un moment qu'ils allaient être bien mal installés. Mais M. de Livry, moitié en se vachant, moitié en flattant le maître de l'hôtel, finit par obtenir de dresser des lits dans un salon voisin de la chambre que l'on avait donné à Mme de Valery. Miss Lagy logea avec René et Hélène. Blanche resta auprès de sa mère. « Nous autres, messieurs, disait le vieil ami, d'un air malheureux, nous perchons au quatrième. Je prends Maurice avec moi pour le soigner. » Maurice fit, derrière le dos de celui qui le plaisantait encore, un geste de mauvaise humeur que Gaston seul aperçut. « Oh non, monsieur, prenez-moi donc plus tôt, dit-il, si vous saviez comme je vous serais utile pour faire vos commissions. Je sais me démener dans les hôtels, et sans moi vous n'auriez jamais demain matin l'eau chaude pour faire votre barbe. Les domestiques ne seront pas pressés de monter au quatrième. Va pour toi, mon pauvre Maurice, je te plains de perdre mes attentions. » Puis M. de Livry laissa la famille de Valery à son installation. En se réveillant, la première pensée fut pour la visite au transatlantique que l'on devait faire sitôt après le petit déjeuner. Lorsque tout le monde fut réuni dans le petit salon de l'hôtel, M. de Livry jeta un coup d'œil à la ronde et se mit à compter 1, 2, 3, 4, etc., en désignant chacun du doigt, puis dit de sa bonne grosse voix. « Nous y sommes tous. En avant, marche !» Tout en marchant, à travers rues et boulevards, les enfants s'arrêtaient de temps en temps aux boutiques et trouvaient que cela ressemblait à Paris. « Voilà ce que vous n'avez pas à Paris, » fit observer Madame de Valery lorsqu'en approchant du port, on vit s'élever une forêt de mâts et de machines à vapeur. L'animation était grande malgré l'heure matinale. Des marins de divers pays fumaient leurs pipes, et à chaque groupe le langage variait. L'anglais dominait, ce qui faisait plaisir à Miss Lagy. Assis sur un parapet, un petit mousse jouait avec un singe, tandis qu'un peu plus loin, un nègre avait un magnifique perroquet sur son épaule. Quand la famille de Valery passa, l'oiseau se mit à débiter en un patois incompréhensible une foule de mots qui semblaient d'autant plus des injures qu'il faisait mine de s'élancer de son côté. Les petites filles effrayées se mirent à courir en se retournant pour voir si elles n'étaient pas poursuivies. Le nègre leur montra alors qu'il tenait son perroquet attaché par la patte, puis riait en faisant voir toutes ses dents blanches. Enfin on arrivait en vue du beau bâtiment que l'on venait visiter. Parents et enfants poussèrent un cri d'admiration. Quelles que fussent ses dimensions, les garçons avaient peine à croire qu'il pût loger la population d'une petite ville. Le capitaine était un brave, décoré de la Légion d'honneur, pour le courage déployé pendant une tempête où son navire aurait péri sans le sang-froid dont il avait fait preuve. Il vint au-devant de M. de Livry, une ancienne connaissance, et lui serra les mains d'une façon énergique, puis d'un aimable sourire accueillit ceux qui l'accompagnaient. Ensuite il fit les honneurs du paquebot, depuis les cuisines jusqu'au salon d'apparat. Tout était pour les enfants sujet d'étonnement. La manière dont les ustensiles de vaisselle étaient suspendus afin d'éviter les chocs, les fauteuils fixés au plancher et pivotant sur eux-mêmes afin d'éviter de tourner le dos aux personnes avec lesquelles on voulait causer, les lits placés dans les cabines l'un au-dessus de l'autre, ainsi que des rayons dans une armoire. Bien d'autres choses encore parurent curieuses et intéressantes. Le capitaine montra que les amusements pour la jeunesse n'étaient pas oubliés. Il y avait différents jeux, des livres, des albums. Il fut même bien aimable en offrant aux petites filles de jolies livraisons coloriées publiées en Amérique. Et voyant que leur frère se penchait pour les regarder, il leur en donna aussi, mais de plus sérieuses. Avant de le quitter, M. de Valry lui demanda s'il avait affaire au Havre ce jour-là. « Non, pas précisément. Alors vous devriez venir avec nous déjeuner à la pointe de la Hève. Nous allons, en sortant d'ici, prendre des voitures pour nous y conduire. »« Volontiers, » répondit le capitaine. « Je vous demande seulement quelques minutes, le temps de laisser mes instructions à mon second. » On se donna rendez-vous place Louis XVI. Et à peine fut-on sur le quai que chacun cria la faim, assurant qu'il était impossible d'attendre sans quelques gâteaux le repas de midi. La recherche d'un pâtissier fut donc décidée. On se mit en véritables affamés à dévaliser les assiettes. Monsieur de Livry seul avait un estomac satisfait du café pris le matin, de sorte qu'il alla s'informer si le loueur de voiture, prévenu la veille, s'apprêtait pour l'heure dite. 10 minutes plus tard, tout le monde, y compris le capitaine, roulait sur la route de Sainte-Adresse. Après s'être arrêté à Notre-Dame-des-Flots, où la protection de la Sainte Vierge est, comme sur tant de rivages, invoquée par les marins, nos promeneurs gagnèrent le restaurant qui, malgré les gâteaux mangés au sortir du transatlantique, les intéressait dans ce moment-là plus encore que la visite des phares, car il était près d'une heure. Cette visite faite plus tard eut un grand intérêt pour les grandes personnes et les garçons, mais Miss Lagy, qui en connaissait tout le mécanisme, resta au bas du long escalier à garder les petites filles. « Je ne sais pas pourquoi on nous trouve trop petites, » observa Hélène. « Nous aurions bien la force de monter sans deux marches. »« Beau plaisir pour voir une chose à laquelle tu ne comprendrais rien, » répondit Maurice. Quand il redescendit, lui disant que la lanterne située dans le phare avait 7 mètres de haut, elle ne voulut pas le croire et l'appela blagueur. « En voilà un joli mot dans la bouche d'une petite fille, » dit Monsieur de Livry qui l'entendit. Les chevaux des voitures de louage avaient sans doute eu une copieuse ration d'avoine, car ils se donnaient des airs d'impatience en piaffant comme des chevaux de maître. Et lorsque chacun eut repris sa place, ce fut pour rouler vivement à travers un pays charmant. Le lendemain, à pareille heure, on reprenait la route de Trouville. Madame de Valry seule fut un peu souffrante en mer, les enfants n'éprouvèrent aucun malaise. Sur la jetée, Madame de Berneuil se trouvait, guettant le retour, comme elle avait accompagné le départ. Les mouchoirs flottèrent encore dès que sa famille l'aperçut, et quand la distance fut moindre, il y eut avec la main plus d'un envoi de baisers. Marcel et Lily les faisaient même partir double en mettant leurs 2 menottes ensemble sur leur bouche. Je laisse à penser ce qu'il y eut de bavardage pendant le reste de la journée.